Merci d'abord Bertrand, je me sens honoré de faire une conférence plénière. Et en fait, c'est ma première conférence plénière, donc je trouve qu'il faut le dire quand c'est la première fois. Donc merci Bertrand. Je voudrais aussi remercier toute l'organisation. C'est un très beau colloque, très agréable, comme toujours. C'est toujours ici à l'UQAM des colloques qui sont à la fois passionnants et assez amusants, assez intéressants. Donc merci à vous tous. Alors, j'ai quelques scrupules à faire ce que je vais faire aujourd'hui. Puisque je vais faire quelque chose d'entièrement théorique ce matin, et que c'est le troisième jour, et je comprends que tout le monde fatigue, et moi d'ailleurs aussi. Hein. Et par ailleurs, j'ai quelques scrupules parce que d'une certaine manière, je vais aussi reprendre quelques éléments de la première conférence de Bertrand, et pour ceux qui étaient au panel d'hier sur l'extrême contemporain, de ceux énoncés par Emmanuel Bouju. Bon, et en même temps, je me sens obligé de faire ce que je vais faire, pour une simple et bonne raison. D'abord, c'est que je crois que c'est un peu ce qu'on attend de moi, d'une certaine manière. Et par ailleurs, parce que je souhaitais vraiment aujourd'hui vous présenter ce qui devrait être, ce qui sera, j'espère, l'introduction d'un nouveau livre que je viens de terminer, mais qui est pas, enfin, dont je viens de terminer le premier jet, mais qui n'est pas satisfaisant à mon avis, mais qui repose quand même sur une thèse que je vais énoncer aujourd'hui. Et cette thèse, je ne voulais pas la livrer avant, c'est aussi le titre de mon intervention. Cette thèse, c'est Brouhaha, enquête sur le monde contemporain. Donc je teste auprès de vous aujourd'hui cette thèse que je livrerai en fin de communication. Alors, au fond, si je suis arrivé à ce travail d'enquête sur le contemporain et pas d'essai sur le contemporain, c'est en grande partie dû au programme de recherche que j'ai présenté à l'Institut universitaire de France et pas au Collège de France, où je ne serai jamais, évidemment. Et ce programme de recherche s'intitule, en toute modestie, « Archéologie du contemporain, littérature, culture, savoir, tout ça au pluriel ». Alors je savais, en présentant ce programme de recherche, que son ampleur, disons, cette ambition de panoptique était très bien pour obtenir ce statut, mais posait vraiment des problèmes pour l'écriture d'un livre qui essaierait de le restituer. C'est-à-dire que je ne voyais aucune porte d'entrée pour aborder frontalement cette question du contemporain théorique dans ces divers champs que sont les champs des littératures, des cultures et des savoirs. Or, en mai 2012, j'ai été invité à un colloque à l'université Stanford qui avait pour titre « Qu'est-ce que le contemporain ?». Alors c'était en espagnol, en portugais, en anglais, puisque c'était organisé par le département des littératures latino-américaines. Alors que j'avais moi-même organisé, peut-être certains le savent, un colloque sous ce titre en mai 2007, c'est-à-dire 5 années plus tard, et puis d'autres l'avaient fait avant. Je ne veux pas dire qu'on était les premiers à le faire. Hein. Et dans ce cas-là, je ne sais pas trop comment faire quand on m'invite sur quelque chose que j'ai le sentiment d'avoir déjà fait préalablement, puisqu'il serait quand même assez malhonnête de répéter ce que j'avais dit à cette occasion-là. Et puis c'était très visible puisqu'un livre était paru pour les actes du colloque de 2007. Donc intuitivement, je me suis proposé d'interroger la question même, qu'est-ce que le contemporain, dans un texte qui vient de paraître et qui, au fond, constitue le point d'origine de cette enquête que je vais présenter aujourd'hui, dont je vais vous présenter les principes. Cette question, qu'est-ce que le contemporain, n'avait jamais été posée jusqu'en 2004. Et pourtant, à Stanford, en 2012, elle faisait l'objet d'une reprise, puisque c'était la 8e fois en 8 ans qu'elle résonnait dans un lieu, ici, un lieu académique. La première fois, elle fut posée dans une série d'articles publiés dans la revue Tsun du Centre d'expression contemporaine de Rosario en Argentine. La seconde fois, c'était, vous le savez tous, à Venise, par Giorgio Agamben lors d'une conférence devenue célèbre. Elle a été posée deux fois en France, à Rouen, d'abord par un collectif d'architectes et par nous, au Centre national de la danse. Elle est revenue en Italie pour un colloque consacré aux arts de la scène. Et enfin, elle a été posée deux fois en 2011 à Santiago du Chili, par des historiens et des spécialistes de Cultural Studies. Et puis à Bruxelles, par la revue Pylone, qui est une revue, je ne sais pas si mes amis belges ici présents sont d'accord avec moi, que je qualifierais de branchée et interdisciplinaire. Un numéro de la revue états-unienne d'études hispaniques vient de paraître sous ce titre, et en septembre 2014, il y aura une conférence à St. Andrews en Écosse sous le titre « What is the contemporary ?». Bref, cette série irrésolue nous dit deux choses qui peuvent paraître contradictoires. D'une part, à mon avis, elle marque la fin d'un processus de substantivation, puisque « contemporain » n'est plus un simple adjectif qui qualifie des sujets, des objets ou une époque, un adjectif dont on a pendant longtemps moqué le manque d'épaisseur et de consistance, et je me suis aperçu que moi-même je l'avais fait, puisque Bertrand citait une phrase où je disais que c'était un mot de faible intensité, et puis maintenant je trouve que c'est pas tellement de faible intensité, mais bon, j'espère que ma conférence aujourd'hui le montrera. C'est donc un substantif, le contemporain, dont on interroge la substance, avec le sentiment intuitif, évidemment, qu'elle nous concerne collectivement. D'autre part, si cette série marque la fin d'un processus de substantivation, il faut néanmoins remarquer, vous l'avez vu, que c'est une fin sans fin. C'est une fin, sinon inachevable, du moins inachevée, puisque ce qui frappe, c'est la reprise exacte de la même formule questionnante qui signale l'échec de toute détermination univoque. Et moi, je suis encore étonné qu'on m'invite à des colloques sur le « qu'est-ce que le contemporain ?», comme je le ferai à St. Andrews en Écosse en septembre. Mais ça me fait très plaisir d'y aller et je dirais à quel point c'est normal que cette série soit sans fin tout à l'heure. Le contemporain, à la différence d'autres catégories, n'avait jusqu'alors jamais fait l'objet d'un phénomène d'interrogation massive. Bien sûr, l'art contemporain, la danse contemporaine, la musique contemporaine ont suscité des débats passionnés, mais au fond, ce n'était pas le contemporain qui était questionné, c'était le substantif qu'il qualifiait, l'art, la danse, la musique. La notion, la catégorie, le concept se sont donc imposés sans être interrogés, comme s'il était naturel qu'ils soient désormais là. Il y a donc un contraste saisissant entre cette période relativement longue, pas celle que j'ai donnée hein, précisément, pas celle de 2004 à 2014, mais celle qui précède, hein, une période relativement longue durant laquelle le contemporain, le non-contemporain, s'est imposé à l'abri de débats beaucoup plus bruyants, et cette série récente de questions qui portent sur son identité. Des débats beaucoup plus bruyants, comme celui du postmoderne, par exemple. Un débat très bruyant qui, finalement, ne débouche plus sur rien, et à côté, ce contemporain qui s'installe progressivement sans être véritablement interrogé et qui, tout d'un coup, est là, et qu'on voit entreprendre de penser. Bon, pour commencer, je ne ferai pas retour sur une ambiguïté que j'estime aujourd'hui levée. Pendant des siècles, puisque c'est un mot multiséculaire, hein, le contemporain s'est contenté de signifier la coprésence au temps qui passe, condamné à en subir la fugacité, et à ne rien signifier de plus qu'une forme d'actualité réduite à l'éphémère, il s'est depuis peu inscrit, et le mot inscrit est important, hein, comme qualificatif au frontispice de musée, comme titre de cours, de fonction et de spécialités universitaires. Nous sommes plusieurs ici à être professeurs de littérature contemporaine. En France, je crois bien que c'est Bruno qui l'a été le premier. Mais je ne voudrais pas dire de bêtises, je crois que c'est ça. Non ? On verra plus tard. Il dialogue ce mot contemporain avec d'autres catégories classiques, antiques, modernes, qui sont a priori considérées comme sérieuses ou du moins consistantes. À la différence, par exemple, du postmoderne, à nouveau, qui n'a jamais fait l'objet d'une inscription institutionnelle disciplinaire, sinon à la marge, avec des musées d'art postmoderne qui sont plutôt des installations d'artistes. Et je n'ai jamais rencontré de professeur d'histoire postmoderne. Mais bon, peut-être qu'il en existe. Hein. À peine existe-t-il des revues académiques portant ce nom, comme la revue Postmodern Culture, qui a été importante en son temps, hein, et qui l'est aussi, hein, mais on ne sait plus aujourd'hui si elle a une vocation historique ou une vocation à se saisir de l'actualité. Significativement, du reste, pour fêter ses 20 ans, cette revue organisa en octobre 2010 un colloque intitulé « Culture after Postmodern Culture ». Donc on se situe dans l'après de la culture postmoderne pour cette revue. Évidemment, un exemple permet d'invalider l'hypothèse de la simple fugacité du contemporain, dans la mesure où une bonne partie des musées d'art contemporain disposent et travaillent à partir d'une collection. Alors, ils ont aussi une option historique, archivistique et documentaire qui ne peut pas être réduite à la simple fonction de montrer l'art d'un aujourd'hui perpétuellement changeant. Sinon, il faudrait en permanence changer les expositions. Le contemporain est donc un concept, en partie au moins historique. Mais c'est aussi un concept qui a une histoire. Alors, c'est ce que j'avais essayé de montrer dans l'article introductif au volume « Qu'est-ce que le contemporain ?», dont je ne vais pas supposer a priori que tout le monde l'a lu, et que je veux critiquer, mais pour le critiquer, je veux en rappeler les éléments essentiels. Donc j'avais dans cet article, dans cette introduction, tenté de rappeler l'apparition et l'imposition du mot contemporain dans un certain nombre de champs. Et malgré tout, même si je vais critiquer ce que j'ai fait, mes préventions étaient réelles, puisque je tentais de retracer l'histoire d'un mot, conscient qu'on ne peut historiciser qu'à partir des usages lexicaux. Et mes préventions étaient aussi réelles, même si je ne l'ai pas suffisamment affirmé à ce moment-là, puisque j'inscrivais très modestement ma recherche à la suite de celle de Hans Robert Jauss sur l'apparition et les métamorphoses du mot « modernité » dans cet article que vous devez connaître, hein, qui est... en référence, j'ai que sa traduction, sa version originale et sa traduction anglaise, mais c'est dans l'esthétique de la réception, hein, en français. Donc, d'une certaine manière, cette étude, qui était guidée par l'hypothèse selon laquelle le contemporain est une catégorie esthétique, ce qu'on peut discuter, hein, mais c'est aussi une catégorie esthétique, aurait pu s'appeler, plagiant le titre de celle de Jauss, « Le contemporain dans la tradition esthétique et la conscience d'aujourd'hui ». Le texte de Jauss est vraiment important, je l'ai relu à l'occasion de ce nouveau travail, et ses apports sont multiples. Parmi ceux-ci, on peut retenir qu'il existe, et je crois que ça c'est vraiment important, hein, une conscience historique variable ou relative du présent, plus ou moins intense, et que les moments de grande intensité se caractérisent par la formation ou la réactivation d'un mot. C'est la thèse de Jauss. Chaque fois qu'il y a un moment d'intensification de la pensée du présent, on forge ou on réactive un nouveau mot. Et le degré d'intensité peut se mesurer, ça Jauss ne le dit pas, mais c'est tellement clair dans son étude. Ce degré d'intensité peut se mesurer par l'activation ou l'utilisation d'un mot qui relève lui-même de la temporalité. Parmi ceux-ci, antique, ancien, renaissance, moderne, modernité sont tous des termes qui relèvent de la temporalité. Et si on suit Jauss, ces moments sont plutôt rares. Il signale la formation d'une identité historique. Qu'est-ce que ça veut dire une identité historique? C'est la cristallisation, un moment où expérience esthétique, expérience politique et expérience historique se cristallisent dans un mot. Le contemporain substantivé, devenu substantif, puisque c'était le premier titre que j'avais donné, hein, le nom contemporain, le substantif contemporain, répond à tous ces critères puisque c'est un mot qui est reconstruit. Qu'il est construit sur un mot qui relève de la temporalité historique, il signale un moment de grande intensité dans la conscience historique du présent. Il devient donc nécessaire de comprendre ce qu'il nous dit. Donc, suivant l'exemple de Jauss, je me suis dans un premier temps intéressé à l'histoire du mot contemporain, en rappelant, vous le savez, en français qu'il apparaît, mais aussi dans toutes les langues romanes et en anglais, environ au début du XVe siècle, hein, c'est un mot donc tardif, et qu'il connaît trois expansions d'usage, ce qui était quand même... important de noter à ce moment-là, trois expansions d'usage qui correspondent à trois moments de crise philosophique et esthétique en Europe. La Renaissance, la querelle des anciens et des modernes, les Lumières. C'est-à-dire que chaque fois qu'on voit dans les dictionnaires historiques utiliser le mot contemporain, on s'aperçoit que ça correspond très précisément à ces trois moments en Europe. Alors, malgré ces moments d'expansion, si son usage est tout à fait limité, puisqu'on lui préfère le mot moderne. Donc il fallait tenter de comprendre aujourd'hui pourquoi le terme de moderne n'est plus guère utilisé alors que celui de contemporain a envahi les discours sur la représentation du présent historique. Et là encore, j'ai suivi l'exemple de Jauss. Je ne vais pas passer ma communication à dire ce que j'ai fait, hein, mais je rappelle juste les trois ou quatre axes principaux et puis je vais dire quelque chose de nouveau. Hein. Donc j'avais posé, hein, puisque il faut renvoyer à une extériorité pour comprendre l'usage des mots, alors je vois les usages du mot contemporain se développer après la Deuxième Guerre mondiale, je ne voulais pas être plus précis, donc qu'est-ce qui se passe après la Deuxième Guerre mondiale? Donc à ce moment-là, pour ceux qui ont lu le texte, peut-être vous vous souvenez, j'avais dit, il y avait trois phénomènes qui pouvaient l'expliquer, maintenant je pense qu'il y en a quatre, hein. Trois phénomènes, le premier phénomène c'était un phénomène d'ordre démographique, économique et politique, c'est le baby boom qui produit une mutation démographique, je ne dirais pas sans précédent parce qu'il y a eu des mutations démographiques précédemment, hein, mais une mutation démographique qui entraîne une profonde reconfiguration du rapport au savoir et à la culture dans le sens d'une démocratisation. Et cette démocratisation va transformer ce rapport au savoir, notamment dans l'espace universitaire qui nous est cher, mais aussi dans les espaces culturels, en faisant accéder à ces espaces de la distinction toute une partie de la population qui n'y avait pas accès juste là. Parallèlement, il y avait des raisons géopolitiques qui pouvaient l'expliquer, avec plusieurs décentrements, dont deux décentrements majeurs, un décentrement de la cartographie intellectuelle et culturelle de ce côté-ci de l'Atlantique, et un deuxième décentrement polycentrique, j'ai envie de dire, au moment de la période postcoloniale. Donc de nouvelles visibilités artistiques et intellectuelles apparaissent, qui non seulement ne se reconnaissent pas dans le mot moderne et modernité, mais en plus le contestent en bien des endroits. Enfin, il y a eu, quelque chose, c'est ce que je ne disais pas, je crois, à ce moment-là, une querelle et une guerre, sans quoi de nouvelles terminologies n'apparaissent pas. Cette querelle, c'est la querelle des canons qu'il y a eu plutôt de ce côté-ci de l'Atlantique, et la guerre de l'art contemporain qu'il y a eu plutôt de l'autre côté de l'Atlantique, qui tous les deux montraient un nouveau rapport à la tradition, aux communautés, et notamment pour ce qui concerne la littérature, puisque nous sommes des littéraires, qui montraient que l'enseignement de la littérature et des grands textes formaient un des piliers essentiels de l'éducation au national propre à la modernité, et que nous sommes dans l'après-coup de cette tradition-là. Bon. Donc du point de vue de la temporalité historique, et uniquement de ce point de vue-là, qui est éminemment problématique et que je vais contester, on peut parvenir à dégager une séquence à peu près cohérente qui impose ou accompagne la nécessité de recourir à un nouveau terme. Ce moment contemporain, qui naît dans la deuxième partie du XXe siècle, se caractérise en grande partie par l'usage du terme contemporain pour se désigner. C'est un peu déceptif, hein. Mais ce terme n'est pas vide de sens, il marque une série de transformations. Bon, voilà, ça c'était le principe de l'article de 2010. Ce que j'ajouterai aujourd'hui aussi, c'est que dans cette hypothèse esthétique, dans cette lecture esthétique, qui ne sera plus la mienne bientôt, on pourrait dire que moderne et contemporain ne s'opposent pas, tout simplement parce qu'ils ne se situent pas sur le même plan. Ils ne se situent pas sur le même plan. Et là, je retrouve Yaos. Selon Yaos, il existe depuis la fin de l'Empire romain une opposition structurante et structurale dans la conscience historique entre ancien et nouveau, ou plutôt, dit-il, ancien et moderne. L'ancien et le moderne varient avec le temps, de même que la nature de leur opposition. Ils s'incarnent parfois dans une série de mots qui constituent un deuxième niveau dans la représentation historique du présent. Il y a un premier niveau qui est structurel, fondamental pour Yaos, c'est celui d'ancien et moderne. Et puis un deuxième niveau qui sont comme des, où on trouve des actualisations de ce premier niveau-là. Par exemple, d'un côté, on peut trouver antique ou classique, ou de l'autre, ces variations sur le moderne que sont la modernité, le modernisme, ou bien, si vous avez le texte de Yaos en tête, hein, pour certains peut-être, le romantisme, sur lequel il passe beaucoup de temps. Donc il y aurait d'ailleurs un troisième niveau qui serait plutôt constitué par les mouvements esthétiques ou politiques. Donc l'hypothèse esthétique soutiendrait que contemporain est un terme de second niveau, tout à fait comparable à romantisme ou modernité, tel que Yaos les analyse. Il serait en son sens une forme du moderne, tel que la Renaissance, le romantisme ou la modernité l'ont été. Alors, le récit qui me permet d'aboutir à cette hypothèse est depuis, je pense, trop rapide, même s'il n'a pas été rapide dans son formulation, et un peu trop péremptoire. Il n'est pas faux, mais il manque de finesse, puisque j'ai cherché à exposer trois ou quatre grands paramètres déterminants, alors que ce sont bien au contraire les micro-phénomènes qui importent. C'est donc moins une histoire du contemporain que je donnais à lire dans ce texte de 2010 qu'un récit, c'est-à-dire la moins actuelle et la moins contemporaine peut-être des approches en sciences humaines. Par ailleurs, pour parvenir à cette hypothèse, il a fallu que je superpose quatre niveaux de compréhension des catégories esthétiques qu'il convient maintenant de distinguer, même si aucune n'existe réellement sans les autres. Donc je vais parler de ces quatre niveaux de compréhension des ordres, ces quatre approches du contemporain, qui ne sont pas exclusives, hein, je reviendrai. Donc le premier niveau, le plus direct, le plus aisé, mais aussi le moins convaincant et le plus discutable, et qui a déjà été très largement discuté par Emmanuel Bouju de manière définitive hier, mais bon, j'avais déjà écrit mon texte, donc je vais le faire aussi, c'est le niveau relatif à l'approche épocale, relatif à l'époque. En ce sens, le contemporain, mais je ne le critiquerai pas de la même manière qu'Emmanuel, bon, c'est vraiment une petite variation. En ce sens, le contemporain serait une époque, et en l'occurrence, notre époque. Et chaque fois que je vais dire « notre », il faudra mettre des guillemets, s'il vous plaît, dans votre tête. Puisque seule notre époque le revendique comme critère d'identification collective. Or, ce « notre » fait problème. Le monde contemporain, dans un sens épocal, est traversé de tant de réalités diverses et contradictoires qu'il invalide pratiquement la possibilité du « notre ». Le « notre » englobant n'est reconduit qu'à condition de reconduire un impérialisme ou un égocentrisme. Impérialisme, lorsqu'il s'agit d'inclure dans une représentation située géographiquement et temporellement l'ensemble des phénomènes collectifs. Égocentrisme, lorsqu'il s'agit de situer l'ensemble de ces phénomènes autour de sa propre personne. Ainsi, une grande partie de la critique culturelle et esthétique, dont je fais partie et dans laquelle je m'inclus, n'a pu faire autrement que de voir dans le temps qu'elle vivait des phénomènes ou des ruptures majeures, simplement parce qu'elle y participait. Ça, c'est une forme d'égocentrisme. Le dénouement est un peu comme ça, puisque je vois que vous l'avez là-dessus, il y a quelque chose d'égocentrique dans le dénouement. Parallèlement, d'un point de vue épistémologique, l'approche épocale pose le problème, ça m'embête parce que j'arrête pas de critiquer ce que j'ai fait préalablement, et je me demande à quoi ça sert que je continue à faire des choses que je vais critiquer peu après, mais bon. On en est tous au même niveau. Hein. Donc, parallèlement, d'un point de vue épistémologique, l'approche épocale pose le problème de la périodisation et donc d'une représentation bornée du temps, dont Emmanuel a parlé hier, mais dont je vais parler différemment maintenant. Mais une expérience devrait nous encourager à nous méfier de la périodisation, puisqu'une discipline à vocation historique, pas la moindre, puisqu'il s'agit de l'histoire elle-même, a plus massivement que les autres fait usage de la catégorie de contemporain. Dans la représentation traditionnel, 19e, fin 19e, hein, disons, qu'elle donne du temps historique, qui est déjà sujette à de très nombreuses et très anciennes critiques internes. Elle convoque l'histoire, quatre larges périodes, l'histoire ancienne, l'histoire médiévale, l'histoire moderne, l'histoire contemporaine. Or, pour cette dernière, se posait le problème de ces deux bornes, où commençait-elle, où finissait-elle, et du reste, finissait-elle. Quelles que furent les solutions envisagées, toutes étaient mauvaises. Et un historien a dernièrement fait un peu un bilan de ces solutions, Henri Rousseau, et effectivement, absolument, toutes étaient mauvaises. D'une part, parce que le premier réflexe a été de borner selon les histoires nationales, avec pour début de la période contemporaine, je vous le donne en mille, très souvent 1789, mais parfois 1914, parfois 1917, en Russie, hein, c'est clairement ça que fait l'historiographie, très souvent 1945, de ce côté-ci plutôt de l'Atlantique. Donc le contemporain commence soit en 1789, soit en 1945. Débrouillez-vous avec ça. On retrouve en un sens l'égocentrisme. D'une part parce que le réflexe fut de borner en fonction des grands événements, et je mets « grands événements » entre guillemets là aussi. Or, toute l'historiographie contemporaine a critiqué cette approche par les grands événements, de même que l'histoire littéraire et l'histoire de l'art ont très fortement relativisé et problématisé une lecture par les grandes œuvres ou les grands auteurs. Ces notions, grands événements, grands auteurs, grandes œuvres, relèvent d'une manière légendaire de comprendre l'histoire et fonctionnent généralement comme des reconstructions a posteriori. Enfin, s'est posé la question de savoir si une période pouvait être en cours et s'il fallait en borner la clôture. Pour y répondre, il fallut dégager une cinquième période, l'histoire du temps présent, qui, même si elle problématise l'ensemble de cette représentation séquentielle, ne s'en extrait pas vraiment. Conséquence, si on suit l'exemple de l'histoire, la période contemporaine appartient au passé. Conséquence aussi, ce modèle n'a pas été structurant pour l'ensemble des disciplines, puisque aucune science humaine ou sociale ne l'a vraiment repris, à part l'histoire de l'art dans sa version la plus ancienne, hein, dans sa version inféodée complètement à l'histoire. En revanche, l'approche épocale, c'est pour ça qu'il ne faut pas la rejeter complètement non plus, hein, je pense que de la même manière qu'Emmanuel aussi, est si solidement ancré dans l'histoire des représentations, hein, que l'on pense à ses précédentes variations sous la forme de cycles ou d'âges, bien que problématisées, qu'elles continuent à hanter notre représentation du temps et donc du contemporain. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait en travaillant sur l'après-Seconde Guerre mondiale tout à l'heure, précédemment. Une deuxième approche peut être qualifiée de modale, et là je reprends les catégories de Vincent Descombes. Mais je ne comprends pas modèle de la même manière que lui. Donc je reprends le même mot, qui me semble un très bon mot, mais pas sa définition. Donc une deuxième approche peut être qualifiée de modèle. Le contemporain est un rapport au temps historique, c'est un mode d'être au temps. Il est ainsi transhistorique. Il y eut autant de contemporains que de moments historiques qui furent tour à tour contemporains. Le contemporain désigne ainsi un rapport au temps, à l'histoire et à l'actualité, quelles que soient les époques. Il suffit de rappeler, comme on le fait parfois, que tel ou tel peintre classique fut en son temps un contemporain pour revenir à cette évidence. Pour cette conception, il serait plus juste de parler d'ailleurs de contemporanéité que de contemporain. Si cette approche est probablement trop maximaliste, il n'y a que des contemporains. Si vous connaissez le livre de Benedict Anderson sur les origines de la conscience nationale de Imagine Communities, il distingue les formes de communauté en fonction de leur rapport à la simultanéité. Pour lui, il n'y a que de la simultanéité. Donc c'est une approche très maximaliste, mais pas inintéressante. Donc si cette approche est probablement trop maximaliste pour nous permettre de comprendre ce qu'est le contemporain, elle est néanmoins beaucoup plus substantielle que la première. Elle a plus de substance, puisqu'elle part de l'hypothèse qu'il existe une raison ou un ensemble de raisons qui ont conduit une collectivité... Partant de l'hypothèse qu'il existe une raison ou un ensemble de raisons qui ont conduit une collectivité à se désigner par le terme de contemporain, alors l'insistance sur un mode d'être au temps sera sûrement productive. C'est-à-dire que si c'est trop large, en même temps, si on comprend le contemporain comme un mode d'être au temps, alors il suffit de comprendre ce mode d'être au temps. Mais elle risque de tomber dans l'essentialisme si on ne lui adjoint pas deux approches qui dialoguent et ont très nettement ma faveur, au moins comme porte d'entrée. C'est d'une part l'approche notionnelle que j'avais déjà travaillée en 2010. Le contemporain est une notion, et donc comme toutes les notions, elle a fait l'objet d'une fabrique qui a sa propre histoire, et comme toutes les histoires, on peut la retracer à condition de la penser comme un événement de discours. Le contemporain, c'est un événement de discours, c'est ce que j'arriverai à montrer tout à l'heure, que je perpétue. Le contemporain résulte d'un ensemble de discours qui se croisent, se répandent, se superposent, se différencient. La quatrième approche est un sous-ensemble de la précédente, sur laquelle j'ai travaillé aussi dans le texte de 2010, donc je ne reviens pas vraiment. C'est l'approche institutionnelle, mais sur laquelle j'ai beaucoup retravaillé pour le livre que je viens de finir. C'est une porte d'entrée plus facile, en raison même de sa visibilité. Les institutions sont visibles, et donc faire l'histoire de ces institutions est relativement simple. Par exemple, la multiplication de bâtiments qui portent le mot contemporain, comme le musée d'art contemporain de Montréal, dans leurs pierres, la multiplication de ces bâtiments sur l'ensemble de la planète, c'est ça qui est important, presque sur l'ensemble de la planète, nous fait mieux comprendre comment se constitue un imaginaire du contemporain et quelle forme il prend. Donc ces quatre approches, épocale, modèle, institutionnel, notionnel, auxquelles il convient d'ajouter la première hypothèse, qui était une hypothèse esthétique, ne sont pas exclusives, se relaient, se superposent, et la difficulté, c'est de les tenir ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y en a aucune à rejeter, elles ne portent pas sur le même plan, mais lorsqu'on dit contemporain, nous évoquons au moins cette hypothèse et ces quatre compréhensions. Donc un récit, quatre approches, plusieurs hypothèses, j'ai conscience que ça fait déjà beaucoup, d'autant qu'aucune ne nous dit vraiment pourquoi ce terme s'est imposé, comment il agit, comment il nous agit et comment nous l'agissons. Car si de ce qui précède, on veut bien tirer qu'une nouvelle actualisation du moderne se justifie, il n'y a aucune raison a priori qu'elle se fasse grâce au mot « contemporain ». Les catégories sont généralement dites par des mots qui eux-mêmes disent quelque chose. Et pour les comprendre, il faut d'abord savoir qui les énonce. On doit ainsi distinguer les catégories imposées après coup par l'histoire et celles que les acteurs eux-mêmes semblent avoir choisies. Des catégories qu'on pourrait qualifier d'allo-définitionnelles ou d'auto-définitionnelles. Or, le contemporain est une catégorie auto-définitionnelle qui est utilisée par ces acteurs mêmes. Pas vraiment revendiqué ni claironné, mais quand même utilisé. Dans un tel cas, un réflexe nous encourage, quand on est sur des catégories construites après coup, toute tentative d'interprétation de cette catégorie comme produite par ces acteurs est vouée à l'échec. Voilà, c'est ça. Et on en a énormément, nous utilisons énormément de catégories qui n'étaient pas du tout utilisées par les acteurs de ces phénomènes. Mais là, on peut penser que l'utilisation de cette catégorie produit du sens, puisque nous l'utilisons nous-mêmes. Et comme ces termes, si l'on suit Yaos, ont presque toujours relevé du vocabulaire temporel, notre réflexe nous conduit à penser que ces catégories déterminent un rapport au temps, ce qui par ailleurs est loin d'être évident. Parce qu'au fond, tout ça pourrait être le fruit du hasard. tout ça pourrait être le fruit du hasard. Bon, donc, contemporain dit quelque chose. Cela dit, avec le temps, qui est du même temps. Mais justement, j'ai voulu m'interroger sur avec le temps. Qu'est-ce que cela veut dire avec le temps ? Là aussi, il y a plusieurs manières de comprendre cet avec le temps-là. La première manière, nous en avons parlé déjà beaucoup ici, mais j'y reviens juste rapidement. Les deux autres, on n'en a pas parlé, me semble-t-il, juste à présent, mais la première, on en a parlé. Avec le temps, c'est être au présent. Mais là aussi, qu'est-ce que cela veut dire, être au présent ? Tout dépend, au fond, vous verrez l'inclinaison de ce que je vais dire, du régime d'historicité. Une partie de l'historiographie travaille déjà depuis longtemps sur la sémantique des temps. Pour Koselleck d'abord, pour François Hartog ensuite, le temps n'est pas une enveloppe vide, il est investi par les sujets qui en font l'expérience. L'articulation entre passé, présent et futur depuis le présent, et toujours depuis le présent. Enfin, c'est ce que nous apprenons aujourd'hui, c'est que cette articulation se fait toujours depuis le présent. Résulte d'une tension entre le champ d'expérience que nous vivons et l'horizon d'attente. Si je suis et résume abusivement François Hartog, qui lui-même suivait et résumait en grande partie, non pas abusivement du tout, Reinhard Koselleck, on peut distinguer au moins trois régimes historiques, c'est-à-dire trois manières d'être au temps, selon que l'horizon d'attente se situe dans le passé, voire limite de l'âge d'or ou du paradis perdu, par exemple, dans le futur, le progrès ou la nouveauté, ou dans le présent. La démonstration de François Hartog, vous le savez, je pense tous, tend à montrer que progressivement, une crise des temps s'est installée au cours du XXe siècle et s'est radicalisée au XXIe, nous faisant passer d'un régime plutôt futuriste à un régime plutôt présentiste, où le centre de gravité de notre être dans le temps est le présent. Il parle ainsi de l'expérience contemporaine d'un présent perpétuel, insaisissable et quasiment immobile. Je le cite, et il dit « C'est ce moment et cette expérience contemporaine du temps que je désigne comme présentisme. » Dans la mesure où le mot présentisme, s'il frappe par sa précision historique, historiographique, n'a néanmoins pas été repris dans le discours commun. Je veux dire, on est les seuls à utiliser le mot présentisme. Hein. Mon boulanger, il ne parle pas de présentisme. Hein. Alors qu'il pourrait parler de contemporain. J'ai envie de retoucher cette phrase pour l'inclure dans une proposition quasi tautologique en disant « C'est ce moment et cette expérience contemporaine du temps que le contemporain désire. » Selon Hartog. Pas vraiment ma pensée à moi. Une deuxième interprétation de « avec le temps » peut être convoquée et qui me semble peut-être plus importante. La contemporanéité pourrait être comprise comme une co-temporalité. Co-temporalité, comme une concordance des temps multiples. Je n'ai cessé, durant cette enquête sur le non contemporain dans les pratiques artistiques et les champs du savoir, de rencontrer, dans les œuvres d'art notamment, mais aussi dans la théorie critique, une représentation palimpseste, ou feuilleté du temps, où le présent n'est pas une séquence du temps, mais un point de métabolisation de tous les passés et de tous les futurs. Qui est du même temps, ne renverrait pas forcément à cette confraternité d'époque, mais à la co-temporalité dans le présent de tous les temps historiques. C'est clairement une vision benjaminienne de l'histoire, qui n'est pas loin d'ailleurs, ça m'embête de dire ça parce que ça contredit tout ce que je pense sur les grands auteurs, etc., mais qui n'est pas loin d'être le penseur capital hein, de l'époque sur la temporalité, quels que soient les traitements qu'on en fait, c'est-à-dire c'est Benjamin avec des guillemets hein, souvent, mais il est repris partout, et il y a une lecture benjaminienne d'à peu près tout aujourd'hui, y compris, et c'est tout à fait normal, des technologies, hein, du monde technologique dans lequel nous sommes. Donc, qui est du même temps ne renverrait pas forcément à cette confraternité d'époque, mais à la co-temporalité dans le présent de tous les temps historiques. Et j'ai l'impression, après plusieurs années d'enquête maintenant, que cette vision-là dit une sémantisation très claire du mot contemporain. Mais avec le temps, dit encore autre chose. Troisième sens. Il y a dans le cum de contemporain un accord, un accompagnement, une adhésion qui n'apparaît plus tellement dans les langues qui ne l'utilisent plus comme préposition ou adverbe, comme le français. On ne l'utilise pas comme préposition ou adverbe. Il faut faire un pas de côté linguistique pour mieux le comprendre. Cette fois-ci, l'allemand est plus précis. Zeitgenössisch. Contemporain associe Zeit, le temps, et Genoss, le camarade, le compagnonnage. Donc temps et compagnonnage ou camaraderie. Être un camarade du temps. un compagnon du temps, c'est une idée assez problématique et qui est très souvent moquée dans les représentations théoriques ou artistiques. Car il va de soi que dans les théories modernes, la subjectivité individuelle ou collective se fait nécessairement contre. Il faut tuer le père, s'opposer à la mère, lutter contre la société. Les expressions artistiques elles-mêmes sont le plus souvent pensées dans cette logique oppositionnelle. On a valorisé à juste titre les maudits et les refusés, et de cela on retient qu'ils furent maudits, refusés. Aucun n'aurait été un bon camarade, un bon compagnon du temps. Dans cette logique, les camarades du temps sont les officiels, les résignés. Serait-on passé à une logique inverse? Une logique d'adhésion maximale, de consentement maximal. Cette idée, absurde, hein, je dois dire, mais traverse absolument le champ intellectuel, tout le champ intellectuel, en tout cas dans un vieux pays comme la France, d'un pôle conservateur qui revendique la mécontemporanéité, raillant les contemporains. Vous savez, ce fameux jeu de mots qui vient de l'art contemporain, contemporain, c'est exactement cette idée du compagnonnage du temps, ne trouvant de posture éthique que dans la détestation d'époque qui leur rend d'ailleurs formal en leur réservant toutes les positions d'honneur, tous les privilèges économiques et symboliques, au moins dans ce vieux pays qu'est la France. L'Académie française nous en a montré une très brillante exemple dernièrement en élisant Alain Finkielkraut. Donc d'un pôle conservateur à un pôle émancipateur qui chronique les temps consensuels et énonce la fin de cette mésentente nécessaire à la politique. Du premier pôle, je ne dirai rien de plus. Lorsque la posture réactionnaire défend la logique oppositionnelle, la confusion guette. Le second est plus nuancé, plus subtil, et c'est souvent lui qui nous permet de comprendre ce que pourrait être un compagnonnage du temps. Mais la plus exacte formulation de ce compagnonnage, je l'ai trouvée dans un texte littéraire, ou plutôt une sorte d'art poétique, de l'écrivaine Emmanuelle Pirer, que j'aime énormément, et dont j'aime énormément ce texte, qui s'intitule « Fiction documentaire », qui était paru dans le premier volume de « Devenir du roman ». On pourrait dire qu'en termes de posture, rien ne la distingue plus de la logique oppositionnelle. Au contraire, elle ne cesse d'utiliser le vocabulaire du « cum », du rapport, de la relation. Elle postule par exemple qu'il y a un rapport étroit entre le type de littérature produit à une certaine époque et son contexte historique et social, quant à la manière qu'ont les textes, je cite, de sélectionner leur lieu d'émission, le terrain où ils prendront la parole. À la suite, elle multiplie les termes qui renvoient au compagnonnage, coïncider, compagnie, etc. Pour mieux la comprendre, je peux donner un extrait un peu long, et d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi je ne fais pas de PowerPoint pour ces extraits-là, donc j'espère que vous arriverez quand même à me suivre. Je cite Emmanuelle Pirer. C'est assez long parce que ça m'amuse assez ce texte, j'espère qu'il vous amusera quand même aussi à la fin. S'il faut un trait distinctif de notre expérience du réel, proche ou lointain, dit Emmanuelle Pirer. On peut partir de son fort taux de médiatisation par des écrans d'ordinateur ou de télévision. Je voulais aussi prendre cet exemple parce qu'il correspond aux perspectives de Figaro. Nous vivons de manière intensive dans la compagnie d'écrans de petite taille et ces écrans déversent dans notre salon, dans nos chambres et sur nos bureaux un volume considérable de renseignements et ou inepties concernant le monde. Néanmoins, nous ne sommes pas pour autant ahuris. Nous ne sommes pas engloutis dans des écrans de télé ou d'ordinateur, nous ne leur cédons qu'une proportion limitée de notre attention. Voilà le second trait distinctif. Nos écrans, poursuit-elle, ne sont pas du tout écrans type écran de cinéma. Devant un écran de petite taille ou moyenne, dont nous sommes pour une part nous-mêmes le projectionniste, nous nous oublions en fait assez peu, nous commentons à voix haute le spectacle au fur et à mesure de son déroulement, nous changeons le DVD, nous cliquons, nous retartinons un sandwich, nous répondons au téléphone. Fin de la citation. Cette posture est contemporaine dans le troisième sens du terme. Elle entretient un commerce, c'est le terme ironique employé par Pirer, avec le temps, elle ne reprend ni la logique du retrait, ni celle de l'opposition chère aux théories modernistes. Mais dans ce commerce soutenu que nous entretenons avec nos écrans, dit-elle, c'est quasiment chaque phrase venant nous entretenir du monde qui doit être suspectée. C'est toute la logique du cum selon Pirer qui ici se déploie. Car Pirer évoque une posture, une singularité qui n'est plus en rapport d'opposition frontale avec le groupe social, mais détourne, fait jouer, juxtapose notamment les langages pour chercher la dissonance. Bref, trouve dans l'équivoque un mode d'être. L'équivoque comme autre nom de ce compagnonnage du temps, comme ce autre nom de ce contemporain, car il faut le dire, renoncer au contre ne signifie pas en rien consentement ou adhésion béate. Il s'agit plutôt dans ce texte d'un manifeste du cum, un manuel de survie dans le compagnonnage qui s'abstrait de la logique oppositionnelle. Être avec le temps, être camarade du temps, c'est se glisser dans ses plis, l'occuper, l'habiter pour le configurer et le faire voir. La conclusion de l'auteur est limpide, puisqu'elle constate un redéploiement vers le pluriel. Alors, ce postulat est loin d'être isolé. Comme je sens que je vais parler trop longuement, je vais passer, mais j'avais des exemples dans d'autres littératures qui étaient tout à fait calées dans ce sens-là. Mais simplement, je voudrais dire qu'il y a aussi dans cette posture et dans cette pratique quelque chose du compositionnisme, autre terme fondé sur le cum, cher à Bruno Latour, qui en a écrit le manifeste. Compositionnisme, qui d'une part se distingue de la logique oppositionnelle, et d'autre part formule une des très rares propositions de sortie de la modernité et du bonheur. Composer un monde commun nécessite un certain compagnonnage du temps. Le compagnonnage du temps compose le monde commun, selon Bruno Latour. Donc ce que je remarque là, c'est que, à la fois dans la littérature et dans la pensée la plus diffusée aujourd'hui, hein, celle de Bruno Latour est une pensée très diffusée, on a véritablement une volonté de construire une logique compositionnelle avec le monde qui me semble aller dans le sens de ce troisième, cette troisième signification du contemporain. Alors, un récit, quatre approches, plusieurs hypothèses, trois significations, ça fait encore plus et sûrement trop, je le sens. Pourtant, et c'est sur cela que je conclurai, je crois que j'ai jusqu'à 10 heures, c'est ça Bertrand? On a commencé à l'écart ou... C'est ça? Bon. Je ne dépasserai pas. Hein. 10h moins 2, je dirais. 10h moins 2. Pourtant, j'ai la certitude que lorsqu'on utilise ce terme, c'est l'ensemble de ces potentialités qui est convoqué. Et c'est ça que j'ai remarqué dans mon enquête. Avec plus ou moins d'intensité. C'est la pluralité presque infinie des usages du mot qui seule est véritablement significative. Déjà, dans le récit que je propose en 2010, m'intéressant plus aux usages qu'aux essences, je supposais que le contemporain était avant tout un événement de discours. Le monde n'a pas changé à cause de tel ou tel événement qui nous aurait fait contemporain, alors que nous étions quoi ? Moderne, moderniste, postmoderne ? Le contemporain est d'abord parlé dans des formations discursives diverses. Des discours disciplinaires, des discours médiatiques, des discours domestiques, des discours professionnels. Il est frappant de constater combien un mot peut se diffuser, contaminer certaines strates du discours et pas d'autres. Et pourtant, cette multiplicité produit une cohérence qui fait le sens et le véritable sens, à mon avis, du mot contemporain. En tout cas, c'est ce qu'on peut comprendre du questionnement sur le contemporain. Aucune contribution à ce débat notionnel, pas même celle de Giorgio Agamben, n'a paru suffisamment consistante pour s'imposer. Et pourtant, les autorités n'ont pas manqué dans ce débat, que ce soit dans les pratiques artistiques ou curatoriales, les sciences sociales ou les sciences humaines. Mais aucune ne clôt le mouvement, pas même temporairement. On imagine mal, pour prendre un exemple récent et bien peu autoritaire, tel collectif écrire hein, « Qu'est-ce que la philosophie ?» en 1992 ou 1993, juste après celui de Deleuze et Guattari. Qu'on le veuille ou non, par leur entreprise même, Deleuze et Guattari, peut-être même parce qu'ils étaient Deleuze et Guattari, ont fixé les termes du débat sur la question. Mais c'était, semble-t-il, la dernière fois. Les règles ont depuis profondément évolué. Il serait malvenu de croire, dans ces conditions, que la réponse à la question « qu'est-ce que le contemporain ?» et c'est au fond ma thèse, est encore manquante, en attente de son exégète, de son expert ou de son prophète. La réponse à la question « qu'est-ce que le contemporain ?» existe, elle est sous nos yeux, apparente, il suffit d'y être attentif, ou plutôt de l'entendre. Elle réside précisément dans cette multiplicité irrésolue, dans ce brouhaha qui résonne à travers le monde et grâce auquel ceux qui en apparence ne dialoguent pas finissent par le faire. Cette vision n'est pas angélique parce que ce brouhaha et cette multiplicité irrésolue est agonistique. Elle témoigne d'une démocratisation des discours, du rééquilibrage géographique de leurs usages, des décentrements institutionnels propres aux contemporains lorsqu'ils s'imposent comme conscience historique du temps. Le contemporain, dans ces conditions, apparaît comme l'expérience concrète de cette multiplicité de récits plus ou moins oppositionnels. Cette expérience est aussi celle de la pluralisation d'espaces publics dialogiques où se façonnent et s'expriment ces récits. L'histoire notionnelle et institutionnelle, d'ailleurs, je passe sur ça, mais je voulais rappeler simplement que par ailleurs, grâce à cette enquête, je me suis aperçu que les moments de très grande conscience historique, de fabrique du présent, les moments de contemporanéisation en Europe, la Renaissance, les Lumières, la modernité, lorsqu'on les observe attentivement, lorsqu'on revient sur eux attentivement, nous apparaissent aussi comme multiples, contradictoires, bruyants et oppositionnels. C'est encore le brouhaha. Seule leur classicisation historique, seule leur patrimonialisation les ont disciplinés. En ce sens, le brouhaha fournit le sens philosophique, esthétique et politique du contemporain, qu'on le considère de manière épocale, comme notre époque, modale, comme mode d'être historique ou notionnel, disciplinaire et institutionnel. Longtemps discipliné, il s'impose désormais comme un marqueur historique de notre temps et comme un mode de relecture de l'histoire. S'il est ainsi une différence de l'époque dite contemporaine avec les autres époques contemporaines, c'est qu'on y reconnaît volontiers que non seulement le brouhaha la caractérise, mais plus encore qu'il a toujours caractérisé le présent, dont la définition forme un champ de bataille ininterrompu. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel brouhaha, ce ne sont pas, selon les époques, les mêmes personnes qui parlent, dans les mêmes lieux, sur les mêmes sujets, avec les mêmes enjeux. Les différences historiques tiennent essentiellement à ces variations qui relèvent de la configuration des sphères publiques. Participer à l'élaboration du présent est au fond un privilège qui a évolué avec le temps. Alors évidemment, cette reconnaissance pose un problème à l'essayiste, en l'occurrence moi, qui souhaite en parler. Comment rendre compte du brouhaha sans le discipliner et sans se laisser gagner par lui? Car si je rejette les récits trop ordonnés, il me paraît impossible d'aborder cette multiplicité de fronts et encore plus impossible de la faire voir, entendre, percevoir ou comprendre. La multiplicité exige une stratégie. Je pensais vous parler de cette stratégie, mais je propose de finir sur ce terme et de vous remercier.